Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info avec ce soir Florence Loas, avocate pénaliste, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, Yohann Uzaï, et Claude Moniquet qui est à Bruxelles avec nous, spécialiste du terrorisme et renseignement. Je voulais juste vous montrer pour démarrer cette image de Columbia, l'université de Columbia en direct, qui est occupée depuis plusieurs jours maintenant par les jeunes gens qui sont pro-palestiniens. Mais je le disais tout à l'heure, c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui défendent le Hamas, pour beaucoup, qui ont des slogans pro-Hamas, comme on n'en a jamais entendu aux États-Unis. Il y a un antisémitisme incroyable aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. On attend un homme politique important, un speaker, le speaker Mike Jones. C'est une fonction officielle aux États-Unis. C'est le 56e speaker. Normalement, Elisabeth Guedel nous expliquera tout à l'heure. Et puis, de ce qui se passe aux États-Unis, de cet antisémitisme qui est absolument jamais vu. Mais pour démarrer, et vous le savez, on a appris ce soir qu'une tentative d'attentat, en tout cas un projet, avait été, semble-t-il, déjoué en Haute-Savoie. Projet imaginé dans la chambre d'un ado de 16 ans. Son objectif, les Jeux Olympiques, frapper la défense à Paris. Cet ado a été interpellé hier et immédiatement, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour les chefs de préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Il a été placé en garde à vue après avoir annoncé sur les réseaux vouloir fabriquer une ceinture d'explosifs afin de mourir en martyr. Déclaration manuscrite également a été retrouvée chez lui où il fait allégeance à l'État islamique. On vous donne toutes les infos de Sandra Buisson.
C'est un jeune de 16 ans qui lui a été interpellé en Haute-Savoie à Marigné. Il est suspecté d'avoir voulu faire un attentat pendant les JO. Suspecté aussi d'avoir cherché dans une chaîne Telegram à trouver de quoi fabriquer une ceinture explosive pour mourir en martyr au nom du califat islamique. C'est ça qui a donné l'alerte. Ce jeune mineur, il était suivi pour radicalisation. Alors en perquisition, les enquêteurs ont découvert notamment une déclaration d'allégeance à l'État islamique. Il a reconnu qu'il projetait un attentat à la défense pendant les JO. Selon ses déclarations, il a dit qu'il voulait passer à l'acte avec une ceinture explosive ou un fusil. Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette affaire et les investigations doivent déterminer à quel état d'avancement était son projet.
Voilà, donc il a été placé en garde à vue après avoir annoncé sur les réseaux vouloir fabriquer une ceinture explosive. Et puis cette déclaration manuscrite qui est absolument effrayante. Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes le spécialiste de ces questions de terrorisme et renseignement. C'est vers vous que je veux me tourner d'abord. Moi, je suis affolé ce soir. Enfin, comme beaucoup, un ado de 16 ans qui est dans sa chambre, qui est dans une sorte de bulle cachée en quelque sorte et qui prépare un projet. Alors, c'est à définir si oui ou non il était prêt à passer à l'acte, mais qui prépare un projet d'attentat.
Oui, c'est affolant et ça témoigne d'une évolution à laquelle on a assisté depuis une vingtaine d'années. Au début des années 2000, les terroristes islamistes sympathisants d'Al-Qaïda avaient entre 30 et 40 ans, souvent autour de 35 ans. 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, avec l'État islamique, on avait un rajeunissement de 10 ans et on trouvait des terroristes de 20, 22, 25 ans. Et 10 ans plus tard encore, presque 10 ans, ce qu'on trouve, ce sont effectivement souvent des adolescents qui peuvent avoir 16 ans. Un des plus jeunes adolescents qui a été arrêté en Europe, je crois que c'était en Angleterre, avait 13 ans. On a eu des interpellations en France d'ados de 14 ans. Alors souvent, ce ne sont pas des projets aboutis, ce sont des échanges sur Internet, sur les messageries. Mais de temps en temps, et apparemment dans ce cas-ci, on va plus loin avec déjà un projet d'attentat qui est travaillé avec la recherche de précurseurs d'explosifs, avec une allégeance à l'État islamique qui a été signée. Donc c'est vraiment inquiétant, effectivement.
Ah, oui, c'est inquiétant. Heureusement qu'il était suivi pour son radicalisme, et c'est pas rien, parce que c'est le PNAT, donc le Parquet National Antiterroriste, Florence Masse, qui s'est saisi de cette affaire. Donc il y a des signes qui ne trompent pas, là.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ce sont des jeunes qui sont extrêmement surveillés, eux et leur famille, par la DGSI, repérés. Puis ensuite, les services de police antiterroriste, notamment la brigade criminelle de la section antiterroriste qui est nationale, eh bien, mène un certain nombre d'investigations. Ils sont filés, ils sont surveillés, ils sont écoutés. Parce qu'il faut savoir que souvent, la radicalisation aujourd'hui, parce qu'il est question justement du fait que ce sont des gens qui sont extrêmement jeunes, jeunes et un petit peu moins jeunes, mais c'est vrai que l'étrange âge, ça peut être du 16, du 20, 25 ans, se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Internet. Et c'est comme ça, effectivement, que souvent la radicalisation a lieu, y compris dans sa chambre, avec son ordinateur.
Oui, je veux dire, on n'est pas à Molenbeek, on n'est pas dans un quartier radicalisé, on est en Haute-Savoie, on est encore une fois dans une sorte de bulle d'ados où les parents n'ont pas accès. Moi, c'est ça qui m'inquiète, et j'ai l'impression... Alors, avant, on parlait de loup solitaire qui était prêt à passer à l'action. Ça ressemble quand même à ça, Philippe Doucet.
Oui, ben si on voit le verre à moitié plein, c'est que c'est plus des logiques de loups solitaires que des logiques organisées, de réseaux structurés. Ça, c'est une chose, parce que je pense que ces réseaux ont été déstructurés largement. Et l'autre aspect, on peut se féliciter, j'ai plus en tête, mais le nombre d'attentats déjoués par la DGSI, qui est considérable. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance, on peut critiquer, parce qu'évidemment, il n'y a jamais une sécurité à 100%, mais ça veut dire quand même que, parce qu'il faut quand même mesurer, on a Haute-Savoie, peut-être ce môme, il est dans sa chambre avec son ordinateur et il fait son film tout seul. Et la DGSI l'interpelle dès qu'il a mis trois trucs sur un réseau. Ça veut dire que le niveau de monter en gamme de nos services de renseignement intérieur pour déjouer la menace, c'est quand même beaucoup amélioré. Alors, ça ne veut pas dire que loin de là qu'il y a une garantie 100%, mais ça montre quand même le niveau pour aller chercher un ado au fin fond de la Haute-Savoie. Quoi, hein. Oui. Donc, bravo la DGSI. Hein.
Oui, la surveillance est extrêmement forte en ce moment. Perspective des JO, tous les services, le PNAT, le Parquet National Antiterrorisme, mais également tous les services de police sont vraiment en surveillance totale, et tout l'antiterro au niveau de l'instruction à Paris, etc. Ils ne laissent rien passer parce qu'il y a quand même la perspective des JO et que, effectivement, les réseaux sociaux, tout est très, très, très surveillé.
Voilà. Oui, Claude Moniquet, encore une fois, bravo et chapeau à la DGSI pour cette surveillance. Mais il faut être vraiment très, très attentif. C'est vraiment, il faut être l'œil de Moscou, en quelque sorte. Hein. Il faut pouvoir regarder un peu partout.
Oui, nous avons eu la malchance en France d'être un des premiers pays visés depuis presque 40 ans maintenant par le terrorisme islamiste. Et donc, ça a permis à l'État de développer des outils qui, à l'époque, étaient uniques, hein, le Parquet national antiterroriste, des juges d'instruction spécialisés, toute une infrastructure et des services qui sont montés en puissance, bien sûr, essentiellement d'ailleurs après les attentats de 2014 à 2017, la séquence de l'État islamique. Et effectivement, comme ça a été dit aujourd'hui, aujourd'hui, jusqu'à il y a un an, disons, la menace d'attentats projetés en groupe avait fortement baissé, voire disparu. On sait qu'elle est revenue, il y a eu des arrestations, des démantèlements de réseaux en Allemagne, en Autriche, dans des pays voisins, entre la France et la Belgique, même ces derniers mois. Et aujourd'hui, les services doivent faire face à la fois à cette menace d'attentat projeté, comme on l'a vu à Moscou le 22 mars, et d'attentats individuels qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir, bien entendu, avec une circonstance encore plus inquiétante. On sait que l'attention des services est totalement ou presque totalement focalisée sur les Jeux Olympiques et que les Jeux eux-mêmes, les sites des Jeux, la cérémonie d'ouverture seront heureusement, même s'il y a des menaces, difficiles à frapper. Et là, ce que ce jeune prévoyait, c'était un attentat périphérique aux portes de Paris, à la Défense, un endroit qui sera par définition moins surveillé que les bords de Seine le soir de la cérémonie d'ouverture. Ça fait peur.
Ça, c'est une alerte importante, Claude Monique. Qu'est-ce que vous venez de dire, Florence?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont des loups solitaires, en fait, parce qu'ils sont réseautés avec des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur notamment le réseau Telegram, où il y a vraiment... Et ils sont repérés, y compris par des gens qui ne sont pas en France, qui sont dans des pays étrangers et des pays islamistes.
Autre affaire terrifiante, celle-là encore, qui implique un mineur de 16 ans. Mais décidément, dans l'actualité, ils sont nombreux. Alors lui, il est suspecté d'avoir préparé une tuerie de masse contre un lycée d'Antibes. C'est un jeune qui a été hospitalisé sous contrainte et visiblement, c'est au moment où il est hospitalisé qu'il se confie à son psy. Et c'est le psychiatre qui a donné l'alerte et il a bien fait parce que les policiers ont perquisitionné Sandra Buisson. Ce sont donc les policiers qui ont perquisitionné et qui ont découvert que les doutes qu'ils avaient étaient avérés.
La perquisition menée chez lui ne les a pas rassurés sur le profil de ce jeune homme. Sur plusieurs supports chez lui, il a bien mis par écrit son objectif de faire un carnage dans son établissement scolaire. Les policiers ont également trouvé des armes blanches, un gilet pare-balles et sur les murs des dessins de croix gammées. L'adolescent, lui, a été interpellé lundi. Pourquoi lundi? Parce que c'est là qu'il est sorti de l'hôpital psychiatrique où il avait été interné précédemment. Une expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis à des chez lui un déséquilibre mental. Le jeune garçon est décrit dans cette expertise comme islamophobe, antisémite, raciste, mais l'expertise conclut qu'il est accessible à une sanction pénale. Ça veut dire qu'il est responsable de ses actes pénalement. En garde à vue, selon nos informations, il s'est dit fasciné par les tueries de masse. Alors l'enquête doit maintenant déterminer si ce projet était très avancé ou non.
Voilà, et il était élève au lycée horticole d'Antibes, donc c'est probablement cet établissement qui avait été ciblé, ou qui aurait pu être ciblé. Bon, alors c'est une affaire totalement différente, Claude Moniquet, parce que là, le PNAT, le Parquet National Antiterroriste, n'est pas saisi. Mais on est quand même sur un garçon qui est fasciné par des tueries de masse, et il le dit lui-même.
Facteur. D'abord, très certainement, il y a une influence de ce qui se passe presque quotidiennement, en tout cas toutes les semaines, aux États-Unis, hein, où on voit ces tueries de masse, ces tueries de groupe qui sont affolantes. Il y a certainement, puisque ce sont des adolescents fragiles, il y a sans doute, ou très probablement, une influence du contexte global. Ce ne sont pas des terroristes, mais quand ils voient un projet d'attentat ou quand ils voient un attentat réussi, ça conforte leur volonté de passer à l'acte. Et puis surtout, de nouveau, ce sont des adolescents. Et on sait aujourd'hui, enfin depuis des années, grâce aux travaux de neuropsychiatres, que le cerveau de l'adolescent est encore en formation et que cet âge de 14, 15, 16 ans, c'est l'âge où se forme la gestion des émotions et les rapports avec les autres. Donc ce sont des gamins qui sont à la fois en pleine recherche d'eux-mêmes, qui ne sont pas tout à fait, je le dirais d'une manière un peu vulgaire, pas tout à fait finis au niveau du cerveau, et qui peuvent très facilement basculer et se retrouver privés de sentiments et dans un état quasiment de psychopathie qui fait qu'ils n'ont aucun ressenti et qu'ils sont capables de tout.
Merci beaucoup Claude Moniquet de votre éclairage en direct de Bruxelles. Il y a quand même des signes, là encore. Il s'est équipé de couteaux. Il a réussi à avoir un gilet pare-balles. Enfin, c'est, encore une fois, Internet, les réseaux qui permettent d'avancer des projets, alors qu'ils ne sont pas forcément terminés. Il faut le déterminer.
Non, mais je voulais insister sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte en France, parce qu'on est un pays où les armes ne sont pas en libre achat, et tout ça. Mais l'influence de ce qui se passe aux États-Unis dans la culture française, on le voit à plein d'égards, que ce soit sur le basket, le rap ou tout ce que vous voulez. Le volume de tuerie de masse aux États-Unis qu'on ne mesure pas en France, on le voit, c'est retranscrit dans l'actualité, mais dans les écoles, dans les centres commerciaux, un peu partout, par des loups solitaires du type de ce jeune d'Antibes, c'est considérable. Hein, donc il faut mesurer. Et donc il y a cette influence-là. On l'a eu aussi en Norvège, où il y a eu aussi un massacre très important d'une centaine de jeunes. Et donc pour des gens qui sont effectivement qui ont des problèmes psychiatriques, on a quand même cette volonté de tuerie avec effectivement un manque d'empathie, de réflexion.
16 ans, les auteurs des tueries de masse, alors c'est vrai, aux États-Unis, ils peuvent être très jeunes, c'est vrai. Mais en France... Il y a quand même quelque chose de nouveau.
Alors là, il est hospitalisé. Il était hospitalisé sous contrainte. Il faut savoir que quand on vous dit que pour l'instant, l'expertise a conclu au fait qu'il n'avait pas, il n'était pas, il n'y avait pas abolition ou altération du discernement, c'est-à-dire qu'il a sa pleine responsabilité pénale, on est juste dans le cadre de la garde à vue. C'est une petite expertise assez succincte qui permet de savoir si on continue la garde à vue et dans quelles conditions. Mais par la suite, quand il va être déféré, présenté à un juge d'instruction et dans le cours de l'instruction, il y aura une expertise psychiatrique qui va véritablement se pencher sur la question de l'abolition de l'altération du discernement. Enfin, et bon, ça, il y a des risques pour que...
On a plein d'exemples quand même dans l'actualité qui montrent que des gamins de 15-16 ans, Johan, peuvent passer à l'acte. Et je trouve que c'est à la fois sidérant et tout à fait nouveau. En tout cas, on parlait de la violence chez les jeunes, c'est pas nouveau, mais qui passe à l'acte. Il y a des tueurs, là. Il y a des tueurs parmi ces voyous.
Oui, je crois que ça participe du processus de décivilisation, pour reprendre le terme du président de la République, à la fois la violence qui augmente en nombre, mais qui augmente également en intensité. Alors pourquoi est-ce que ces jeunes sont poussés à l'ultra, à l'hyper-violence, jusqu'à commettre des atrocités et des homicides? Il y a forcément une explication, parce que c'est l'ensemble du monde occidental, en réalité, qui est touché par cette hyper-violence. Ça n'est pas seulement la France, on voit que toutes les grandes démocraties, tous les pays occidentaux, doivent faire face à une recrudescence de l'ultra-violence.
Oui, mais bon, aujourd'hui, par exemple, il y avait les obsèques de Philippe, 22 ans, était assassiné à Grande-Synthe. J'utilise le terme assassiné parce qu'il a été roué de coups. Il est mort quelques heures après. Il y avait beaucoup de monde. Philippe est tombé dans un guet-apens qui a été tendu par des voyous qui voulaient s'en prendre à un homme qui échangeait avec des très jeunes filles mineures sur Internet. Alors, ils sont tombés sur Philippe. C'était sans doute pas Philippe, mais enfin, il voulait se venger de quelque chose. Je sais pas d'ailleurs comment le qualifier. Il voulait jouer les...
On ne sait pas, parce qu'en fait, semble-t-il, ils allaient sur un site, là, Coco, je sais pas quoi, Coco GG, ou je sais pas. Et en fait, ils avaient ciblé une personne qui, semble-t-il, ne se serait pas présentée et ça serait tombé sur Philippe. Donc en fait, on connaîtra finalement les véritables circonstances de ce guet-apens au fil de l'instruction.
Oui, mais ces voyous, les auteurs de ce guet-apens qui ont tué, encore une fois, sont des mineurs. Et ils se sont dit vengeance, et ils se sont dit on va corriger un pédophile, grosso modo, hein, si je résume. La mère d'un des adolescents suspectés a été interrogée par l'une de nos équipes. Elle est effondrée par l'attitude de son enfant. Et là-dedans, c'est ça, parce que comment reconnaître que vous êtes à côté du mal absolu? Comment admettre que vous avez élevé un enfant qui peut devenir un tueur? C'est très compliqué, c'est très difficile. Une mère, c'est impossible pour elle. Vous allez écouter cette maman.
Je ne suis pas du tout responsable, parce que quand il était à la maison, en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir... Je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard. Il me dit, non maman, je te jure, je suis la preuve, je suis là. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas. S'il a fait une connerie, il doit payer. C'est tout. Pas parce que c'est mon fils. Et bah, je suis pas bien, quoi. Je me dis à n'importe quel moment, on m'attrape dans la rue, on me fait la même chose. J'arriverai pas à le pardonner pour l'instant. Parce que là, c'est toute notre famille qui en pâtit. À cause de leur connerie.
Philippe Dessay.
Évidemment, quand vous êtes maman, quand vous êtes père, bon, c'est compliqué, hein, ça c'est sûr. Hein. D'autant plus qu'en fait, dans les familles, quelles qu'elles soient, on l'a vu, y compris, je pense à des enfants de responsables politiques, à partir de 15-16 ans, les enfants vous échappent en partie. La réalité, c'est qu'ils passent beaucoup de temps au lycée avec leurs copains ou dans les écoles. Et donc, le niveau de contrôle, plus ce qui se passe là-dessus, c'est-à-dire que, savoir ce qu'ils regardent dans les écrans et tout, c'est pas si simple que ça à contrôler. Vous avez aussi des enfants, des adolescents qui s'enferment un peu, c'est où la discussion, l'échange avec les parents, ils construisent leur monde, y compris contre les parents. Même si les parents essayent d'encadrer, mais on ne peut pas. Donc c'est pas si simple que ça pour être parent aujourd'hui. Enfin, ça l'était certainement pas simple hier. Mais ça s'est pas arrangé.
Le numérique n'a pas
aidé. Oui, parce que tout ça nous échappe. Enfin, moi,
et puis, l'idée qu'on est peut-être un gang avec ses copains, on est.
Oui, il y a ça. Ces phénomènes de bande, ils existaient avant, oui, mais vous avez des.
Les
réseaux sociaux permettent aussi des échanges, des interconnexions. Ça se vaut pour des manifestations de gilets jaunes, ça se vaut pour des révoltes ou des révolutions en Afrique, et ça vaut pour des guet-apens.
On comprend évidemment la détresse de cette mère qui vit le moment le plus difficile de sa vie. On peine à imaginer ce qu'elle ressent en ce moment, mais néanmoins, arrêtez-moi si je me trompe, mais il y avait eu des alertes quand même, dans le sens où les mineurs qui sont aujourd'hui mis en examen avaient un casier judiciaire manifestement assez chargé. Donc les parents étaient nécessairement au courant que leurs enfants n'étaient quand même pas sur le bon chemin et qu'ils avaient du mal à s'intégrer, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la société. Donc des sanctions auraient dû être prises. Quand on est parent et que son enfant est amené pour la 5e, la 10e ou la 15e fois au commissariat, le rôle des parents, c'est précisément pour le bien de ses enfants de prendre des décisions pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Là, manifestement, les décisions qui s'imposaient n'ont pas été prises. Bon, déjà,
c'est pas parce qu'on les amène au commissariat qu'ils se retrouvent devant un tribunal, et c'est pas parce qu'ils sont devant un tribunal qu'ils sont dissuadés. Florence.
Écoutez, pour être avocate et défendre énormément de mineurs, puisque c'est une de mes activités dominantes, je peux vous assurer que c'est pas aussi simple que vous le dites. Et c'est vrai que le rôle de parent, c'est un des métiers les plus difficiles au monde. Ça, ok, ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, vous avez des familles. Même quand elles sont prises en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, même quand il y a toute la société qui se ligue en fait pour essayer de les aider, et quand les enfants sont reçus devant les juges des enfants et de façon assez graduée, quand d'abord ils commencent chez le délégué du procureur où on leur fait un petit rappel à la loi, ou bien on leur fait ce qu'on appelle une mesure de réparation, c'est-à-dire qu'ils vont faire une sorte de stage avec une unité éducative. Tout ça est extrêmement, si vous voulez, progressif, parce que en France, quand on s'adresse aux mineurs, la justice des mineurs est une justice qui privilégie l'éducatif sur le répressif. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répressif. Et il y a un moment, ses parents, comme sûrement cette maman, mais bien d'autres, je ne connais pas exactement les circonstances d'éducation de cette mère, son contexte, etc. Eh bien, les enfants leur échappent complètement. L'éducation leur échappe complètement. Et c'est totalement stupide de penser, pardon, c'est pas un jugement de valeur, mais de penser qu'on doit sanctionner les parents pour une éducation qui ne serait pas idéale des enfants. C'est totalement erroné.
Il y a quand même la question de l'exception de minorité qui est en débat, qui prouve que il est possible qu'on envisage de changer les choses, parce que...
Mais la France a ratifié la Convention de New York des droits de l'enfant de 1989. Ça veut dire qu'il y a, vous savez, les conventions internationales, en termes de droits, elles sont supérieures à tout. Donc ça veut dire que quand on vient nous dire on va réformer la question de l'exception de minorité, qui en plus peut être écartée à partir de l'âge de 16 ans, eh bien, il y a un petit problème de droit.
Alors, Johan, vous avez dit quelque chose d'intéressant et qui est très juste. Vous avez dit aujourd'hui, la justice des mineurs privilégie l'éducatif au répressif. Mais elle le fait depuis des décennies. Or, on se rend compte depuis des décennies que la violence des mineurs et que la délinquance des mineurs augmente. Est-ce qu'il n'est pas justement le moment de se dire qu'on va changer de logiciel pour punir davantage des peines courtes quand un mineur de 13, 14, 15 ans commet son premier acte de délinquance, qu'il y ait une sanction immédiate pour signifier à ce mineur que ça n'est pas possible, parce que l'éducatif manifestement ne fonctionne
visiblement,
pas. Donc
visiblement, c'est
répressif.
Pas possible. Visiblement, on a
le répressif, il existe. Ne croyez
pas
il existe. Et de toute façon, tout le monde s'est réuni pour comprendre que c'est pas en sanctionnant plus fort et de façon plus dure que vous allez avoir moins de délinquance, y compris chez les mineurs. Mais ça, c'est un débat très large.
Oui,
très
et moi, ce qui me frappe, parce que je le vois aussi dans un certain nombre de situations personnelles que je vis dans ma commune, de rencontres, d'échanges, c'est que là, on parle de la maman. Mais le papa, il est où ?
Exactement.
Voilà. Donc, vous avez aussi la question, pour des mamans, je le vois autour de moi dans les échanges, c'est que dans des couples séparés, divorcés, et dans des familles un peu à difficulté, la maman arrive à gérer l'enfant jusqu'à 12-13 ans. Ouais. J'ai encore eu la discussion cette semaine avec une amie. Et après, ça bascule. Eh ben, la présence du père, donc quelque part, de la loi dans nos dispositifs... Eh bien, elle n'est plus là. Et donc, c'est compliqué parce que les mamans perdent le contrôle de leur enfant.
Rapidement, est-ce que ce couvre-feu qui a été pris à Béziers, qui va être pris à Nice, est-ce que ça a un sens ou pas, selon vous, pour empêcher les moins de 13 ans,
Oui, enfin, j'ai pas de. Peut-être, je. Enfin, je vois, moi, ce qui m'intéresse, on va voir l'opération de Gérald Darmanin à Pointe-à-Pitre. Voir un peu comme voilà donc comment ça fonctionne
moi, 18 ans.
Parce que c'est pas parce que derrière pourquoi les enfants sont si dehors, vous avez la déstructuration des familles mais vous avez aussi des problèmes que on vit aussi concrètement, c'est-à-dire des suroccupations de logements, donc des mômes qui font leurs devoirs dans les toilettes, enfin faut mesurer dans un certain nombre de quartiers là aussi les difficultés de logement et en fait les mômes pour enfin sont mis un peu dehors pour qu'en gros la plus grande puisse faire ses devoirs ou des choses comme ça, vous voyez.
Je voudrais qu'on parte aux États-Unis dans un instant, retrouver Elisabeth Guédel, mais d'abord, 21h31, je salue Simon Guillain. Bonsoir pour le rappel des titres ce soir.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Accusé d'homophobie après ses propos sur la GPA, Marion Maréchal s'est défendue ce soir sur CNews. La candidate reconquête aux élections européennes a affirmé qu'elle ne s'habituait pas à la banalisation de la GPA. Un acte qu'elle juge monstrueux et honteux. Les enfants ne sont pas des biens de consommation, a-t-elle ajouté ce soir sur notre antenne. François Fillon, reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. La Cour de cassation a toutefois ordonné un nouveau procès concernant les peines prononcées à son encontre. Une nouvelle audience se tiendra donc dans les prochains jours devant la Cour d'appel de Paris. François Fillon a été condamné le 9 mai 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Et puis, plan social d'ampleur chez Casino, l'enseigne prévoit de réduire fortement ses effectifs. Le projet de réorganisation présenté aujourd'hui prévoit la suppression de près de 1300 postes. C'est le plus grand plan social depuis le début de l'année sur notre territoire.
Merci Simon. On va partir aux États-Unis. Je voulais d'abord qu'on regarde les dernières images qui viennent de New York. La police de New York qui a arrêté des manifestants ces dernières heures, manifestants pro-palestiniens de la fac de Columbia. Donc c'est très jeunes gens. Vous savez que depuis plusieurs jours, plusieurs facs américaines sont occupées par des étudiants qui ont monté devant ou même dans les campus des camps. Il y a des tentes, ils dorment, ils protestent contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza qui est entrée dans son 201e jour. Il n'y a pas que des étudiants. D'ailleurs, bonsoir Elisabeth Guédel. Et c'est aussi la particularité de ce mouvement, c'est que les profs ont massivement rejoint le mouvement. Et on dit, et peut-être que vous allez me le confirmer, qu'il n'y a jamais eu autant d'antisémitisme que ces derniers jours, que ces derniers temps aux États-Unis, disons depuis le 7 octobre.
Écoutez, il faut clarifier que ce n'est pas une généralité. Hein. Effectivement, il y a eu des propos antisémites très virulents prononcés ici, par exemple, à Columbia le week-end dernier. Quand on discute avec les étudiants, ils vous disent qu'eux veulent manifester pacifiquement, mais que certains individus aussi viennent, des personnes beaucoup plus dures dans le mouvement, très politisées, qui n'ont rien à voir avec l'université. Donc c'est vrai qu'il y a ce mouvement qu'il faut bien comprendre au départ. Vous savez, les manifestations, il y en a souvent sur les campus. La liberté d'expression, si chère aux Américains évidemment, est clairement exprimée sur les campus. Mais là, ce mouvement, qui est une dénonciation de la gestion par Israël de cette guerre contre le Hamas, a effectivement dégénéré à certains endroits, par moments, sur les campus américains, de New York à Los Angeles. À peu près, les campus d'à peu près une douzaine d'universités actuellement sont occupés par ces manifestants pro-palestiniens. Là, pour le moment, à Columbia, l'Université Columbia, vous pouvez le voir, c'est calme. Mais ce qui frappe quand on est new-yorkaise et qu'on a l'habitude de se promener aux alentours des campus, c'est le nombre impressionnant de policiers tout le long de l'enceinte du campus de Columbia. C'est un grand campus qui fait plusieurs pâtés de maisons. Des policiers donc en renfort, des barrières de sécurité pour dissuader les manifestants de se regrouper. Plusieurs entrées fermées. Quand les entrées sont ouvertes, comme vous le voyez derrière moi, eh bien, il y a un contrôle très strict. Il faut avoir une carte d'identité de l'université pour entrer à l'intérieur. Il y a eu des manifestants, je n'en vois pas actuellement, mais il y a eu des manifestants un peu plus tôt dans la journée. Est-ce que ces manifestants sont partis d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils ont eu un mot d'ordre de l'intérieur? Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a des négociations entre la direction et les représentants des étudiants, représentants des manifestants, donc pour essayer de régler cette crise le plus paisiblement possible, déloger ces manifestants qui, vous l'avez dit, ont dressé menacée d'étendre depuis plusieurs jours. La semaine dernière, la direction de Columbia avait appelé la police de New York pour déloger ces manifestants. Il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations. Ça a tendu encore plus le mouvement. Les tentes ont été dressées à nouveau. Des professeurs se sont joints effectivement au mouvement. C'est pacifique, il y a des négociations, mais c'est sûr que c'est un mouvement qui peut dégénérer à tout moment. Et on a entendu des propos, encore une fois, visant les étudiants juifs, des propos antisémites et des appels à la violence qui sont absolument inadmissibles sur un campus universitaire.
Une pause. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. On va continuer à en parler avec vous. Je sais qu'on a entendu des slogans très... c'était plus que pro-palestinien, c'est même pro-Hamas. C'est intéressant d'entendre à nouveau ce qui s'est dit. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Bon, on va continuer à parler de ce qui se passe dans les facs américaines. Il y en a une douzaine donc qui sont occupées par des militants pro-palestiniens. Je dis pro-palestiniens, mais on a entendu, Philippe Doucet, des slogans vraiment pro-Hamas, hein, qui soutenaient le Hamas, qui soutenaient ce qui s'était passé le 7 octobre, sans embâche. Il n'y avait pas de discussion sur le propos. Donc c'est très grave ce qui se passe. Il y a un représentant du Congrès qui va parler d'ici quelques minutes, qui est venu sur place pour essayer de mettre de l'ordre. Mais est-ce que c'est une répétition générale de ce qui pourrait se passer en France ?
Déjà en France, ça existe. Non, c'est très important ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est nouveau. Entre guillemets, c'est-à-dire que les États-Unis ont toujours été un soutien, on le voit encore maintenant, du gouvernement israélien et Joe Biden. On voit encore les montants financiers aux États-Unis, des États-Unis vers Israël. Donc c'est très important. Sauf qu'une partie de la gauche du Parti démocrate, qui soutient le Parti démocrate, ou qui s'y reconnaît dans le Parti démocrate, a décroché. En disant qu'il faut arrêter sur ce qu'on appelle le double standard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Israël d'un côté en haut et les Palestiniens en bas. Et il ne peut pas y avoir deux types de... Donc si on condamne le 7 octobre, on condamne ce qui se passe, les bombardements à Gaza, etc. Et donc d'ailleurs, ça a posé des problèmes à Joe Biden dans son élection face à Trump, parce qu'il est possible qu'une partie de la jeunesse qui se reconnaît dans le Parti démocrate n'aille pas voter, vu le soutien de ce qui se passe à Israël.
Il y a quelques jours, il était interrompu par des étudiants pro-palestiniens. Et il ne les a pas écartés, il les a écoutés en disant « Vous avez raison ». Vous avez raison.
Oui. Mais il y a encore plus important que ça.
Il est effectivement en campagne.
Il est en campagne, oui, mais il est coincé. Et il y a plus important que ça. C'est-à-dire qu'un des grands leaders du Parti démocrate à la Chambre, qui est en soutien historique d'Israël, a dit que son inquiétude aujourd'hui, c'est qu'Israël devienne un État paria du fait de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.
Il y a une chose très intéressante.
Donc ça bouge aux États-Unis et ça aura des conséquences.
Il y a une chose très intéressante, c'est qu'il y a des étudiants juifs qui participent à ces manifestations, qui ont participé à ce qu'on appelle le CEDAR, le repas traditionnel de Pâques, sur le campus hier. Vous allez entendre le terme qu'ils emploient de scolasticide. Alors c'est un terme qui est apparu aux États-Unis, qui est utilisé dans les facs américaines pour dénoncer la destruction des structures enseignantes et éducatives à Gaza. Donc écoutez d'abord ce petit son.
En tant que juif, en tant qu'étudiant juif, nous savons à quoi ressemble le scolasticide et le génocide culturel. Et en tant qu'étudiant, en tant que juif et en tant qu'être humain, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y mettre fin.
Je ne peux pas aller à un CEDER sans parler de Gaza encore et encore. Nous sommes maintenant les instigateurs d'une telle violence, d'une telle haine. C'est terrible. Il fut un temps où nous étions juifs, où nous étions esclaves en Égypte. C'est ainsi que l'histoire commence. Je vais pleurer.
Voilà, et si vous n'étiez pas là, je vais vous repasser ce que disait hier Michel Abitbol, qui est historien, qui disait qu'effectivement, il y avait des juifs américains, jeunes, de la nouvelle génération, qui n'étaient pas pro-israéliens. Et Michel Abitbol expliquait pourquoi.
On semble oublier dans son faculté que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait par exemple un numerus clausus anti-juif dans les universités américaines. Cet antisémitisme dormant s'est réveillé avec l'afflux, d'abord, des capitaux qataris et autres qui ont acheté véritablement des chaires dans les grandes universités américaines au point d'empêcher la nomination de chercheurs israéliens, l'invitation de chercheurs israéliens dans ces chaires, l'afflux d'étudiants, l'afflux massif d'étudiants arabes dans ces universités. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'indifférence de la nouvelle génération juive qui est de moins en moins pro-israélienne, de moins en moins attachée au judaïsme. Il y a un mouvement anti-israélien, on peut dire anti-sioniste, assez puissant d'ailleurs dans les universités israéliennes, même parmi dans les synagogues, disons, libérales.
Bon, est-ce que c'est vrai ce que dit Michel Huitbol, simplement Elisabeth ? Est-ce qu'il y a un changement dans la mentalité des juifs américains ?
Ah oui, très certainement, et notamment la jeunesse, vous l'avez dit, hein, cette jeunesse démocrate qui ne se reconnaît pas du tout, qui dénonce ce soutien historique inconditionnel des États-Unis pour Israël. Vous savez, les démocrates, les juifs en général, en grande majorité, votaient démocrates, et là, effectivement, ne se reconnaissent pas dans l'administration Biden, qui a tout de suite pris parti en tout cas pour Israël dès le début du conflit au mois d'octobre, qui après a dû rétropédaler pour pouvoir se montrer plus modéré, plus balancé entre ce qui se passe à Gaza et le droit d'Israël à se défendre. Donc effectivement, vous savez, il y a deux mouvements qui s'opposent et qui sont exacerbés en ce moment. Excusez-moi, vous entendez beaucoup de policiers aux alentours. C'est ce mouvement donc de cette jeunesse démocrate qui ne se reconnaît pas dans ce soutien historique des États-Unis à Israël, et puis le mouvement conservateur qui ne supporte plus aussi que sur les campus, eh bien, les présidents d'université n'arrivent pas à régler ce problème d'antisémitisme, à dire clairement ces propos, ces appels à la violence, eh bien, violent le règlement de l'université.
C'est exactement ce que va dire ce soir le républicain Mike Johnson, qui est aussi le speaker de la Chambre des représentants. Il doit arriver, il y a une forêt de micros qui l'attend, le voilà. Et ce que nous voyons sur les campus universitaires du pays est dégoûtant et inacceptable, a-t-il dit sur le réseau X. Il faut absolument que les patrons des universités.
Les républicains. Oui, les républicains.
Qu'ils se ressaisissent. Johan, après on change de sujet.
Mais une partie de la jeunesse américaine s'offusque que l'administration Biden ait pris parti dès le mois d'octobre pour Israël. Enfin, pardon, heureusement qu'ils ont pris parti pour Israël. Il y a eu 1200 morts dans des conditions absolument atroces. Jamais les Israéliens, le peuple juif, n'avaient vécu un pareil drame depuis l'Holocauste. Heureusement que les États-Unis et que toutes les grandes démocraties ont, dans un premier temps, pris parti pour Israël. Le contraire eût été quand même plus problématique. Donc il faut se satisfaire de cela, mais moi je voudrais quand même faire une remarque, parce que une partie de la jeunesse, de plus en plus importante, est quand même embrigadée par une sorte de wokisme qui est en train de gangréner l'ensemble des sociétés occidentales. On en vient à inventer des nouveaux mots pour décrire on ne sait trop quoi. On parle maintenant de génocide culturel, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Et un génocide à Gaza, tout le monde s'inquiète de ce qui se passe à Gaza. Moi aussi, je m'inquiète beaucoup de ce qui se passe à Gaza. Mais l'ONU elle-même, qui pourtant n'est pas pro-israélienne, c'est le moins qu'on puisse dire, affirme qu'il n'y a pas de génocide en ce moment à Gaza.
Ah, mais le terme génocide est précis, hein.
Donc il faut quand même que chacun revienne à la raison, oui, mais cette jeunesse soit un peu recadrée.
Au-delà du terme génocide sur lequel on peut avoir le débat juridique, la réalité, c'est qu'il y a des bombardements massifs.
Il n'y a pas de génocide à Gaza.
C'est une guerre.
C'est incontestable. C'est une guerre, mais un génocide, non.
La difficulté.
Provoqué par qui ? Revenez toujours au départ. Provoqué par qui ? Comment ? Toujours.
Mais il peut y avoir le point de départ du 7 octobre, et ce que vous avez dit sur les démocraties occidentales, à commencer par la France et une grande majorité des forces politiques. Il n'empêche que depuis le 7 octobre, tout le monde peut constater le volume de massacres, et c'est autour de ça que cette jeunesse américaine réagit, y compris cette jeunesse.
Oui, mais c'est une réalité. Et parce qu'ils sont désinformés. Non, ils réagissent comme ça parce qu'ils sont totalement désinformés.
Et endoctrinés.
Parce qu'en réalité, pourquoi il y a tant de morts à Gaza ? Il faut l'expliquer, personne ne l'explique en fait. Et tout le monde met la faute sur l'État d'Israël et sur ça. Mais personne n'explique pourquoi il y a tant de morts à Gaza. Parce que les populations civiles servent de bouclier humain, parce que les armes, elles sont dissimulées dans les hôpitaux. Il faut arrêter. On est depuis le 7 octobre, trois jours plus tard, il y a une inversion totale des valeurs entre le bien et le mal.
Le Hamas va jusqu'à confisquer l'aide humanitaire.
Et la plupart de ces étudiants, comme tant d'autres et comme tous les gens qui interviennent sur les chaînes de télé, dans des tas d'émissions, ne savent même pas où est la Palestine, absolument, où est Israël, où sont les territoires palestiniens. Mais ils n'y sont jamais allés. Ils parlent d'un pays dont ils ne connaissent pas. Attendez, écoutez, arrêtez cette...
Non, mais vous pouvez dire tout ça, d'empêche que Israël a perdu dans cette affaire-là. Vous pouvez le regretter, mais Israël a perdu la bataille morale dans cette affaire-là.
Pour l'instant, mais ce n'est pas fini.
Et quand je citais, ce soutien important d'Israël, qui est au Parti démocrate, qui s'inquiète qu'Israël devienne un État paria, c'est pas quelqu'un qui est hostile à Israël, c'est quelqu'un qui est favorable à Israël. Donc faut mesurer l'impact de ce que ça veut dire, y compris de ce qui se passe en Cisjordanie.
Moi, je voudrais juste conclure en disant une chose, c'est que le monde entier devrait remercier Israël qui combat le terrorisme islamiste. Voilà, c'est le mot de la fin. Le monde entier, au lieu de combattre Israël et de raconter n'importe quoi, et parce que c'est de l'antisémitisme, et tout le monde le sait, sous couvert de « on défend et de l'antisionisme », bon bref, c'est de l'antisémitisme. Et en réalité, tout le monde devrait remercier, c'est Israël qui est au front, ce sont des enfants de 18 à 20 ans qui vont mourir.
Pourquoi tout le monde ne remercie pas ? Vous devriez vous poser la question, pourquoi tout le monde ne remercie pas ? Voilà, donc vous voyez bien aujourd'hui,
finalement, la question pourquoi les gens ne remercient pas ? Parce qu'il y a l'antisémitisme qui est prégnant, c'est tout. C'est ça la réalité, cher monsieur. C'est parce que l'antisémitisme est prégnant.
Mais derrière, vous pouvez faire...
Tout le reste, c'est du bavardage. Monsieur. Le reste, c'est du pipeau.
Vous pouvez considérer ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou emmène Israël dans le mur dans cette affaire, y compris dans la défense des intérêts d'Israël.
Il y a toujours un prétexte.
Vous pouvez considérer que c'est un prétexte.
Aujourd'hui, c'est le gouvernement. Mais monsieur,
à Gaza et autant de morts, y compris en Cisjordanie, ce qui se passe en Cisjordanie, sur lequel il n'y a pas la main.
Quel rapport avec Gaza?
Il y a aussi cette situation.
On s'arrête là. Je voulais juste rappeler, comme tous les soirs, qu'il y a 3 otages franco-israéliens qui sont toujours aux mains du Hamas depuis 201 jours. Maintenant, Orion, Ofer et Ohad, à qui on pense évidemment. Vous savez qu'hier, il y avait la compagne d'Ofer qui était là. Vous pouvez revoir cette interview qui était très, très touchante. Leurs enfants ont été libérés après 52 jours de captivité. Elle était, Hadas Ofer Calderon, était hier dans Le Meilleur de l'Info. Je remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Maureen Vidal. Soir Info vous est présenté comme tous les soirs par Julien Pasquet. Et je remercie ce soir évidemment Adrien Fontenot pour avoir m'aidé à préparer cette émission. Bye bye demain.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.